tout de suite, les infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Fattah Tiemtoré.
Oméga, bonjour. À la une de l'actualité, lutte contre le terrorisme, le Burkina sera désormais capable de contrôler son espace aérien grâce à des moyens en cours d'acquisition ou de livraison, annonce du ministre de la Défense, Barthélémy Simpouré. Il annonce aussi un redéploiement des forces. Le ministre de la Cohésion sociale, pour sa part, annonce un retour progressif des déplacés dans leur localité de départ. Selon lui, certains marchés hebdomadaires locaux sont redevenus fonctionnels. Un signe annonciateur, dit-il. Détail dans un instant. 200 milliards de francs CFA pour sauver l'axe Ouagadougou via Kaya en attendant Kongoussi-Djibo. Deux axes que les groupes armés tentent de couper par tous les moyens. Les partenaires du gouvernement disent leur disponibilité à accompagner ces projets. Au Cameroun, Human Rights Watch accuse les forces gouvernementales de l'exécution sommaire de 10 personnes lors d'une opération contre les séparatistes anglophones dans le nord-ouest du pays. Le gouvernement n'a pas encore réagi. Et avec notre invité du jour, il est question de l'accord signé lundi entre le gouvernement tchadien et les groupes rebelles. Le FACT, impliqué dans la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno, a refusé de le signer, mais assure vouloir poursuivre le dialogue avec le gouvernement. Pas question de reprendre les armes pour le moment. Entretien avec le porte-parole du mouvement, Issa Ahmed. Ce sera en fin d'édition. Madame, Monsieur, voici pour les titres à développer dans un instant. Merci de nous suivre. Bonjour, bienvenue. Lutte contre le terrorisme. Pour ouvrir ce journal, le Burkina sera en mesure de contrôler son espace aérien grâce à de nouveaux équipements acquis ou en cours d'acquisition par le gouvernement. Le ministre de la Défense l'a annoncé ce matin en conférence de presse. Il annonce aussi un redéploiement des forces pour un meilleur maillage du territoire. Objectif, reconquérir les espaces occupés et préserver les autres. D'ailleurs, son collègue de la Cohésion sociale indique que certains déplacés internes ont déjà commencé à rejoindre leur localité. Ils étaient tous deux en conférence de presse ce matin. Moumouni Tamboura y était.
De nouveaux équipements adaptés à la guerre contre l'île terroriste et le processus de réconciliation nationale étaient le principal intérêt de ce trio ministériel. Annoncé au cours du dernier Conseil des ministres mercredi dernier, la relocalisation de certaines unités va s'accompagner d'une dotation d'équipements appropriés, a assuré Barthélémy Simpouré, le ministre de la Défense.
Vous avez parlé donc d'aéronefs qui sont parfois aperçus. Effectivement, nous-mêmes, nous avons des remontées d'informations ici et là sur certaines observations qui ont cours de par les populations, etc. Mais vous le savez, ce sont des phénomènes qui sont, tant que vous n'avez pas pu avoir des preuves sur un aéronef avec peut-être des prises de photos, ça reste donc des allégations. Mais il est certain que dans le cas donc du renforcement de nos capacités, nous aurons la capacité à mieux contrôler notre espace aérien avec donc des équipements permettant donc de pouvoir identifier n'importe quel type d'aéronef qui violerait notre espace.
Pour ce qui concerne la réconciliation nationale, le ministre d'État en charge de la question affirme que le processus avance et produit des fruits, même si les chiffres sont faibles. Yero Bouli assure aussi que des déplacés internes ont rejoint leur localité d'origine, désormais libérée.
Des populations dans leur village, pour juste indiquer que dans certaines provinces, les marchés hebdomadaires et qui ont souvent lieu les 3 jours, suivant les localités, sont déjà ouverts et fonctionnels. C'est le cas à Diou, dans la province de Loudala, c'est le cas à Gorom, et aussi c'est le cas à Tiou, dans la province de Yatenga. Ces marchés qui étaient fermés il y a quelque temps sont redevenus fonctionnels et les populations les fréquentent régulièrement, s'approvisionnent, vont et reviennent.
Une révision des statuts de forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires de défense pour la patrie a été annoncée au cours de ce point de presse. Le trio ministériel évoque un meilleur maillage du territoire national après la mise en place des plans de réorganisation et d'équipement des forces armées nationales.
Et pour redonner vie à ces zones convoitées par les terroristes ou récupérées par l'armée, il faut des ressources. À cet effet, le gouvernement veut mobiliser près de 200 milliards de francs CFA pour financer un plan de résilience au profit des localités situées sur l'axe Ouaga-Kaya-Dori. Cet axe, vous le savez, est très important dans le désenclavement du Sahel et du centre-nord, région durement éprouvée par les attaques terroristes. La question était au centre d'une rencontre hier entre le premier ministre Albert Ouédraogo et les partenaires du gouvernement. Synthèse de Solomon Nikiema et Abdulaziz Zoulabou.
Dénommé plan de résilience et de sécurisation de l'axe Ouara-Kaya-Dori, ce programme vise à reprendre le contrôle de ce tronçon important pour ces localités. Le budget nécessaire pour sa réalisation est estimé à plus de 200 milliards de francs CFA, avec une bonne partie déjà disponible. Cela va permettre aux populations concernées de se réinstaller et le rétablissement rapide de l'État à travers ses services déconcentrés. Lionel Bligo, porte-parole du gouvernement.
Le Premier ministre a instruit l'ensemble des ministres, mais également aussi les partenaires techniques et financiers, à partir donc de la théorie pour aller au concret, c'est-à-dire à la phase opérationnelle. Des engagements ont été pris, des dates ont été programmées pour se retrouver également, pour faire démarrer le plus rapidement possible la partie opérationnelle.
Ce plan d'action est une concrétisation des promesses faites lors de la rencontre de Pau en janvier 2020, rencontre entre le président français Emmanuel Macron et ses pairs du G5 Sahel. Carsten Mecklenburg est le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne.
On est très heureux que le gouvernement actuel a repris, a confirmé cette priorité, a actualisé dans le contexte actuel les actions à entreprendre par le gouvernement et les démembrements. Ce que je peux dire ici, c'est que nous, en tant qu'Union européenne, et je suis sûr aussi pour les autres bailleurs, c'est important de soutenir, d'être à côté du peuple burkinabé.
Des actions restent à mener en faveur d'autres axes comme celui de Kongo-Sidibo, également convoité par les groupes armés terroristes, chose qui rend difficile les activités socio-économiques en faveur de ces localités.
Mais il n'y a pas que ces localités ou ces axes, et dans bien d'autres, des centaines de milliers de personnes déplacées attendent le soutien du gouvernement. Eh bien, la problématique était au cœur du premier conseil d'administration du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat. Les différents acteurs se sont réunis pour trouver des réponses quant à leur contribution à la question de la prise en charge des déplacés. L'ouverture des travaux a eu lieu mercredi à Ouagadougou en présence de Gisèle Tirogo et Bernabé Cabré.
Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes avec pour corollaire de nombreux déplacés internes. Au regard de l'ampleur de la crise, il est impérieux que l'approche d'urgence humanitaire longtemps mise en œuvre par le gouvernement soit repensée pour tenir compte des personnes déplacées internes, selon Boukari Sawadgo, ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat.
La prise en charge des PDI, c'est une activité importante que le ministère prend en charge et des actions concrètes ont été déjà engagées. Nous avions parlé hier au Conseil des ministres de la cérémonie de remise officielle d'infrastructures communautaires au niveau des villes de Kaya, de Tougri, de Dori et de Kongoussi. Le gouvernement est véritablement engagé à ce que le ministère de l'Urbanisme joue sa partition pour répondre aux besoins en termes d'urbanisme d'habitat.
La question de viabilisation des zones spontanées sera débattue au cours de ce CASEM. En saison pluvieuse, les habitants de ces zones vivent un calvaire. Le gouvernement reconnaît n'avoir pas mis un accent particulier sur ses préoccupations de par le passé.
Nous reconnaissons que par le passé, nous n'avons pas mis un accent particulier sur cette question, si bien qu'effectivement, beaucoup de quartiers aménagés manquent d'infrastructures, connaissent des difficultés d'inondation. Et aujourd'hui, avec les orientations du gouvernement, cette question de prise en charge de la viabilisation est au cœur des débats. Nous allons travailler main dans la main pour soulager les populations dans ce domaine.
Plusieurs activités vont être menées lors de ce CASEM. Il s'agit entre autres de réaliser une synthèse des enjeux et défis liés à la croissance des villes impactées par la crise humanitaire. Les participants vont mener des réflexions sur des actions à mener afin d'amoindrir dans un court délai les souffrances des personnes déplacées internes. Un accent particulier sera également mis sur la visibilité des actions portées par le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat dans la gestion des conséquences de la crise sécuritaire. Cette session offre aussi une opportunité aux différents acteurs de valider le programme d'activité 2022 du ministère.
Radio Méga, à la suite de l'actualité, le Centre national de lutte contre la cécité reçoit du matériel roulant et des équipements médico-techniques. C'est un don acquis par le projet de renforcement des services de santé, le projet de préparation et de riposte au Covid-19 sur financement de la Banque mondiale et de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique. La cérémonie de remise a eu lieu hier jeudi à Ouagadougou en présence de Neymata Kabore et Valérie Guéré.
Ce don d'une valeur globale d'environ 453 millions de francs CFA va permettre de renforcer la prise en charge des malades oculaires. Ces équipements composés entre autres de matériel roulant et d'équipements médico-techniques vont améliorer le déplacement des équipes sur le terrain. Jean-Claude Kargougou, ministre de la Santé.
De logistique roulante, notamment de véhicules 4x4 qui vont améliorer la supervision, le déploiement des équipes sur le terrain. Aussi d'un laboratoire mobile qui devrait nous permettre sur le terrain d'investiguer l'émergence de certaines épidémies et de pouvoir les confirmer in situ plutôt que d'avoir à faire des prélèvements depuis le terrain et de les convoyer jusqu'au niveau de Ouaga ou de Bobo-Dioulasso.
C'est un laboratoire mobile qui vient renforcer les capacités en matière de surveillance épidémiologique. Depuis la réception provisoire en juin dernier, ce matériel logistique a permis de réaliser plus de 400 interventions de cataractes dans certaines villes. Patrice Sankara, chef de service du Centre national de la lutte contre la cécité.
Le centre a bénéficié du matériel qui va améliorer nos interventions, nos opérations de la cataracte, de glaucome, de trichiasis, de télévision au niveau du bloc. Et depuis la réception provisoire, galvanisé par ça, on a voulu essayer en allant au niveau de Manga. On a fait près de 192 opérations. Bon, ça nous a galvanisé, on a poursuivi à Houndé 150 et quelques.
À l'issue de la cérémonie de remise de matériel, le ministre de la Santé a visité le Centre national de lutte contre la cécité.
Merci à Valérie Guéret et Neymata Kabouré. Et puis en bref, coopération Burkina-France. C'est ce vendredi que le mouvement M30 Naba Wobogo compte marcher sur l'ambassade de France pour réclamer le départ du diplomate Luc Allade. Vous le savez, le mouvement de Yeli Monique Kam avait lancé son mot d'ordre après des propos de l'ambassadeur de France jugé hors durier. À l'occasion de la fête nationale française le 14 juillet dernier, Luc Allade avait qualifié certains internautes burkinabés d'idiots utiles manipulés pour s'en prendre à la France. Yeli Monique Kam et le mouvement M30 entendent alors marcher chaque vendredi à partir d'aujourd'hui jusqu'au départ du diplomate français. L'actualité hors du Burkina à présent. Le Cameroun, accusé d'exaction, au moins 10 personnes ont été exécutées sommairement par les troupes gouvernementales dans la région du nord-ouest du Cameroun. C'est ce que souligne Human Rights Watch, l'organisme de défense des droits de l'homme, dans un rapport publié hier. Ces exactions, ainsi que d'autres abus attribués aux forces armées camerounaises, auraient été commis entre le 24 avril et le 12 juin dernier lors d'une opération contre les séparatistes anglophones actifs dans la région. C'est les autorités camerounaises n'ont pas encore répondu à ces accusations. Et aux États-Unis, une polémique créée après la perquisition lundi dernier du domicile de l'ancien président Donald Trump oblige le ministre donc de la Justice à se justifier. L'avocate de Donald Trump avait suggéré que le FBI a pu placer des preuves dans la résidence de Donald Trump pour le piéger. Selon Alina Abba, personne n'a été autorisé à assister à l'opération. Un élu républicain également, Greg Stube, a qualifié les États-Unis d'État policier qui mène la guerre aux conservateurs. Des accusations infondées selon Merrick Garland, secrétaire à la justice. J'ai personnellement approuvé la décision de réclamer un mandat de perquisition pour cette affaire, a-t-il assuré. Selon lui, tout a été fait dans le respect total de la loi et l'opération a été approuvée par un juge fédéral. Par contre, il n'a rien révélé sur les raisons et les résultats de cette perquisition.
La revue de presse.
La lutte contre le terrorisme, le développement du Burkina, la politisation, la dépolitisation du moins, la militarisation et la syndicalisation de l'administration publique, ce sont entre autres sujets sur lesquels les quotidiens du jour opinent. On fait le tour avec Brigitte Yoda dans sa revue de presse.
Face à ce que le quotidien qualifie de perte de confiance des Burkinabés en leur armée, notre confrère se désole du fait que le désespoir a conduit la majorité des Burkinabés à réclamer l'aide de puissances occidentales, notamment la France, les États-Unis ou encore la Fédération de Russie. Estimant que dans cette guerre, les Burkinabés ont oublié l'essentiel, le journal pense que nous devons nous libérer nous-mêmes car personne d'autre ne le fera à notre place. Il invite à cet effet à trouver des solutions endogènes pour se passer de l'aide extérieure, c'est-à-dire se résoudre à compter sur nos propres capacités, nos propres forces pour bâtir ensemble le Burkina face au que nous espérons et tel que nous le voulons qu'il soit. Au-delà de la priorité sécuritaire, la transformation que les Burkinabés appellent de tous leurs vœux doit également s'opérer au sein de l'administration et dans la gestion de la chose publique. Ainsi déclaré le 16 février 2022, Paul-Henri Damiba, le tout nouveau président du FASO à l'occasion de sa prestation de serment, rappelle l'Express du FASO pour qui, si cela peut être compris comme une volonté de dépolitiser l'administration et de changer les habitudes, il y a aussi qu'on ne peut pas réussir les objectifs d'une bonne gouvernance sans la baser sur l'existant, l'expérience et les compétences. C'est pourquoi le journal Bobolais invite le président Damiba, si telle était au début sa volonté, à recadrer certains agissements de manière à ce que des Burkinabés ne se sentent pas exclus du processus de refondation de la nation et de sauvegarde de notre peuple. L'observateur Palga, pour sa part, appelle les dirigeants africains à se sentir interpellés par ce qui se passe du côté de la Sierra Leone où des émeutes de la faim ont éclaté. Tout était parti pourtant d'un rassemblement pacifique organisé par des commerçantes en guise de protestation contre la vie chère, écrit l'Obs. La situation est devenue d'autant plus intenable que 40% de la population sierra-léonaise vit avec moins de 2 dollars par jour. Ajoutez à cela les accusations de corruption et de malgouvernance, poursuit le doyen des quotidiens qui fait cette mise en garde. Gare à la propagation de l'incendie dans d'autres pays. Pour le journal, ces émeutes de la faim qui touchent la capitale et d'autres localités de l'intérieur pourraient faire tache d'huile dans de nombreux autres pays, tant les ingrédients de manifestations d'humeur de ce genre sont réunis. Ainsi, selon notre confrère, il faut s'atteler à prendre des mesures vigoureuses pour soulager les populations qui n'en peuvent plus. Car c'est bien connu, les révolutions naissent quand les uns mangent et que les autres regardent, conclut l'observateur Palga.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Avec notre invité, on parle de la situation politique au Tchad. Le gouvernement tchadien s'active pour l'organisation du dialogue national inclusif le 20 août prochain, mais il pourrait se tenir sans le principal groupe rebelle du pays, le FACT, responsable notamment de la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno, tué dans les combats. Le groupe armé du nord du Tchad a refusé lundi dernier de signer l'accord obtenu entre le gouvernement et les groupes politico-militaires. Dans cet entretien, le porte-parole du FACT donne les raisons de ce refus, mais pour le moment, il n'est pas question de reprendre les armes, selon Issa Ahmad, que nous avons joint au téléphone. Je vous invite à suivre. Issa Ahmad, bonjour.
Bonjour, monsieur Etienne Touré.
Vous êtes le porte-parole du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, et votre mouvement, avec une dizaine d'autres, a décidé de ne pas signer l'accord du 8 août dernier avec le gouvernement tchadien, alors que vous avez participé aux échanges jusqu'à ce stade. Quelles sont les raisons?
Effectivement, le FACT a participé aux négociations qui se sont déroulées du 13 mars au 8 août, mais le FACT n'a pas signé l'accord parce que, précisément, un certain nombre de revendications n'ont pas été prises en compte, en l'occurrence la parité au niveau du dialogue national inclusif et souverain, la libération de prisonniers à compter de la signature de l'accord, la modification de la charte, entre autres. Ce sont un certain nombre de points qui n'ont pas été pris en compte et nous n'avons pas jugé nécessaire de signer cet accord.
Est-ce que votre retrait à la toute dernière minute des négociations ne risque pas d'être perçu comme une sorte de trahison, de chantage vis-à-vis du gouvernement de N'Djamena? Est-ce que vous ne craignez pas cela?
Le rejet de l'accord ne veut nullement dire que nous avons rompu les négociations de façon définitive. Et nous avons d'ailleurs affirmé notre communiqué que nous sommes disponibles pour un dialogue en tout moment et partout. Donc c'est dire que nous saisissons encore cette occasion pour réaffirmer notre disponibilité quant au dialogue.
Le FACT, c'est quand même le principal groupe politico-militaire sur cette cinquantaine qui était présent à Doha pour ces négociations. Votre absence, est-ce que finalement on a ce consensus-là qui est présenté par le gouvernement?
Effectivement, le rejet de l'accord par le FACT et un certain nombre de politico-militaires fait que cet accord est doté de son caractère inclusif tant clamé. Effectivement, le gouvernement peut se vanter d'avoir eu un accord, mais un accord partiel qui n'a pas été signé par la totalité deux mouvements politico-militaires et c'est un accord qu'il faut parfaire. Donc c'est pourquoi nous réaffirmons toujours notre disponibilité à dialoguer et à résoudre la question tchadienne par le dialogue.
Mais aujourd'hui, quel est le cadre que vous proposez pour pouvoir satisfaire ces différentes conditions-là maintenant que ce pré-dialogue est clôturé?
Nous continuons toujours à prôner le dialogue. C'est le seul cadre qui permettrait d'apporter une solution définitive à ces décennies de guerre qu'a connu le Tchad, incontestablement. Dialoguer et toujours dialoguer. Donc Doha pour nous n'est qu'un début, ce n'est pas une rupture définitive de négociation. On pourrait continuer sous d'autres cieux afin que nous parvenions à une paix définitive au Tchad.
Eh bien, cet accord du 8 août devrait ouvrir la voie à la tenue prochaine du dialogue national inclusif le 20 août prochain. Est-ce que vous allez y participer si les conditions que vous posez aujourd'hui ne trouvent pas satisfaction d'ici là?
Vous savez, le chèque de ces négociations est essentiellement dû à la mauvaise foi du gouvernement, essentiellement à son insincérité, alors que nous sommes allés jusqu'au bout afin que nous parvenions à signer cet accord. Mais les hésitations du gouvernement ont fait que nous avons fini par rejeter cet accord. La conséquence est que nous ne pourrions pas prendre part à ce dialogue national inclusif et souverain qui devait avoir lieu à N'Djamena le 20 août.
Quand vous parlez de manque de sincérité, à quoi vous faites allusion? Qu'est-ce qui vous pose problème réellement dans l'attitude du gouvernement?
Bon, quand nous parlons de l'insincérité, ce que nous, en venant ici, nous pensions que nous arriverions à un consensus, à signer un accord et pouvoir participer au dialogue national inclusif. Mais malheureusement, nous avons trouvé un gouvernement qui n'a pas daigné nécessaire de faire des concessions. Par exemple, justement, nous accorder la parité au niveau du dialogue national inclusif, la libération de nos prisonniers de guerre, nous assurer un certain nombre de conditions en matière de sécurité. Et voilà la conséquence, c'est que nous avons rejeté l'accord et nous ne pouvons participer au dialogue national inclusif, malheureusement.
Et maintenant, la dernière question, c'est peut-être la plus importante pour les Tchadiens et pour ceux de l'extérieur. Les négociations se sont terminées à Doha sans vous, le pré-dialogue. Et maintenant, le dialogue national inclusif et souverain probablement va se tenir sans vous également. La question qu'on se pose, est-ce que le FACT va reprendre les armes à la fin de cette transition?
Nous, au niveau du FACT, notre outil de résolution du conflit, c'est le dialogue. Ce n'est pas la guerre, justement. La guerre ne résout en rien les problèmes. Et c'est essentiellement avec le dialogue et de façon politique qu'on pourrait résoudre la question, les problèmes du Tchad, mais pas avec la guerre. Donc, même si nous avons rejeté cet accord, nous avons espoir que d'autres négociations feront en sorte que nous arrivions à une paix définitive au Tchad par le dialogue.
Issa Ahmad, merci.
C'est plutôt moi qui vous remercie, monsieur Thiom Touré.
Issa Ahmad, le porte-parole du FACT, principal groupe rebelle tchadien, joint depuis Doha au Qatar. Et avant de nous quitter cette information de dernière minute, avant donc de clôturer ce journal, l'ancien président Roch Kabore en escale à Abidjan devrait être reçu dans les prochaines heures par le président ivoirien Alassane Ouattara, selon une source de Radio Omega dans l'entourage de l'ancien chef de l'État. Après la rencontre avec Ouattara, Roch Kabore devrait prendre l'avion en milieu d'après-midi pour les Émirats Arabes Unis. Un séjour de quelques semaines pour des contrôles et pour un bon repos, rapporte notre source. Selon elle, par une note verbale du ministère des Affaires étrangères, les autorités burkinabè ont informé leurs homologues des Émirats Arabes Unis. C'est donc la fin maintenant de cette édition, mise en onde par Fidèle Compaoré et retransmise en live Facebook par Charles Da. Plaisir de vous avoir servi, l'info continue sur Radio Omega. Moi, je vous souhaite un excellent après-midi et je vous retrouve avec grand plaisir demain pour votre émission Trait de Plume. Portez-vous bien.
Radio Omega, l'info en direct.
Grand plaisir demain pour votre émission Trait de Plume. Portez-vous bien.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos.